RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu vas trouver tout ce que tu cherches ici. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis avec notre champion à nous, celui qu'on adore évidemment, l'idole des jeunes. Yoann Durand, marathonien, membre de l'équipe de France. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, Yo-Yo ?
Tu me le dis pas, ça. J'aimerais que tu dises ça dans la présentation dorénavant.
Oui, bah écoute, je laisse nos auditrices aller voir ton profil Instagram. Moi, j'ai pas Instagram, hein, donc je peux pas.
Ah là là.
Je peux pas indiquer sur tes photos.
Et toi, comment ça va ?
Ben, moi, ça va. Moi, je suis à une semaine de l'objectif, donc tout va bien.
Ouais.
C'est la période que j'ai testé le plus dans une prépa marathon, mais ça va, mon vieux.
Tu vas pouvoir manger des féculents la semaine prochaine.
Voilà, c'est ça. Ah, moi, je fais pas le régime dissocié scandinave. Je suis pas un hamster comme vous. Désolé.
Non.
Bon.
Va manger chez McDo.
Voilà. On rappelle ce conseil. Vous nous rejoignez sur Strava, sur Instagram, sur Twitter. Vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement pour avoir les épisodes en exclusivité. On a un invité avec nous cette semaine. Un champion, évidemment.
Oh
Florian
non.
Carvalho. Sacré champion de France du semi-marathon le week-end dernier à Saint-Omer.
Il a pris mon titre.
Eh oui, il te succède. C'est pour ça qu'on l'invite. Voilà, ça y est. On va la casser.
Bonjour à tous. Salut, bonjour Flo. À tous. Merci.
Et sois le bienvenu.
Salut.
Voilà, tu as piqué le titre de Durand. C'est pas la première fois, je crois. Hein. Vous êtes déjà sur la piste. Hein. C'est ça
ouais. Non, mais bon, il fallait. Mais par contre, il a fait 2 secondes. Je crois qu'il a fait 2-3 secondes de mieux que moi quand même l'année dernière.
Ah.
Je suis déçu.
Et voilà.
Ouais, bon.
Et ouais.
Bon, si c'est que 2-3 secondes, c'est pas très grave. Le parcours était moins roulant, toi, cette année.
Ouais.
Tu peux
on dira ça, ouais. Rassure-le, il a besoin d'être rassuré.
Bon, les gars, on va aborder dans la deuxième partie une thématique importante, les courses préparatoires. Quel est l'intérêt? Comment doit-on les aborder? Où les placer dans une prépa? Et puis d'ailleurs, je précise que l'opération Niscan continue. On suit tous nos athlètes qui préparent le marathon qui aura lieu le 30 octobre prochain. On retrouvera Julien qui va effectuer son premier marathon et qui d'ailleurs s'apprête à disputer un semi d'entraînement dimanche. Johan, tu vas pouvoir lui distiller tous tes bons conseils. Et puis le bon plan d'ossard, on poursuit l'opération 20 km de Paris avec 20 dossards supplémentaires à gagner cette semaine. On vous dit tout dans un instant. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running.
Alors je suis né en 1989, le 9 mars exactement, à Fontainebleau. J'ai commencé à 6 ans l'athlétisme, mais pas avec le judo. Après, de 8 ans à 11 ans, j'ai fait encore de l'athlé avec du rugby.
Florian qui s'accroche, il y a une médaille. Didier Brixel en or, Florian en argent. Florian Carvalho, médaille d'argent. Elle est pas belle cette course.
Elle est magnifique.
Au 50 mètres, je suis encore premier. Et j'ai le malheur de regarder un peu à droite, je me commence à me crisper et bah, du coup je commence à piocher.
On va dire sur 1500 mètres, t'es quand même, tu débranches le cerveau, mais t'es quand même attentif, tu surveilles parce que c'est quand même une course nerveuse.
Le champion de France, le voici, Florian Carvalho qui remporte sur la route un premier titre de champion de France.
Moi l'objectif était venir se faire plaisir, valider un peu tout le travail que j'avais fait cet été qui n'a pas pu se concrétiser à Munich. Bon voilà, j'ai pris plaisir.
Top chrono, 1h03.49 pour Florian Carvalho.
Un athlète pour moi, c'est un peu, c'est persévérance, rigueur, entraînement et partage quoi, entre guillemets.
Il est avec
partage.
Nous donc, oui, Florian Carvalho, multiple sélectionné en équipe de France, plusieurs titres de champion de France sur toutes les distances, 800, 1500. Et donc semi-marathon la semaine dernière et surtout... Florian qui a cette belle qualité, c'est un des meilleurs potes de Yoann Durand.
C'est vrai que c'est une grande qualité.
C'est la meilleure des qualités celle-là.
Ouais, c'est ça. Comment ça va Florian?
Ça va très bien, très bien. On se remet tout doucement des championnats de France de semi-marathon, mais comme je l'ai dit, voilà, ça, ce titre fait plaisir et valide la préparation qui a été faite pour Munich. Ça a pas pu marcher à Munich pour moi,
oui.
Ni pour Yodu du coup. on voit que le travail avait quand même été fait malgré une petite coupure après Munich et on a pu quand même. Se faire plaisir dimanche dernier à Saint-Omer.
Voilà, on aura le temps d'en reparler, mais Florian était tout comme Johan au championnat d'Europe de marathon, donc à Munich. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme tu l'espérais, avec un chrono loin de tes objectifs, mais on pourra en reparler. La question qu'on se pose tous et qu'on a envie de te poser, surtout Florian, c'est il est sympa dans la vie, Johan Durand? Parce que nous, on le voit comme ça, on l'a une fois toutes les semaines, comme ça, il est plutôt cool, mais est-ce que dans la vie, c'est un mec sympa?
D'un point de vue ami, oui, c'est un mec très cool et c'est très agréable de passer du temps avec Yodu et en stage, voilà, en en stage, je peux vous dire que vous passez un stage, ça charbonne au niveau des entraînements. C'est, bon, ça s'entraîne sérieusement, mais à côté, il y a beaucoup de moments où on rigole. Et ça, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un d'agréable et, ouais. Et avec qui on sait qu'on va passer de bons moments, quoi.
Ça va, c'est le même, alors. En revanche, c'est pas un grand cuistot, il
peut. Ouais, ouais. Ah, pour la cuisine, à chaque fois, on essaye de trouver, on n'invite pas n'importe qui en stage et comme ça, on a quelqu'un qui nous fait la cuisine.
Ouais, c'est ça. On prend un mec qui est moins fort que nous en athlé, mais qui sait bien faire à manger.
Bien vu.
Qui est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus fort que nous au niveau culinaire.
C'est ça, l'expérience de l'équipe de France.
C'est ça,
bravo, les
des
gars.
Anciens.
Johan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta relation avec Flo? Ça fait des années et des années que vous vous connaissez. Hein.
Ah bah, ça fait des années qu'on se connaît. On n'est pas tout à fait de la même génération. Flo est un peu plus jeune, donc moi, je l'ai vu débarquer alors qu'il était que cadet et il matchait déjà avec les juniors. Et c'est quelqu'un bah, qui arrive des distances courtes et qui je pense que c'est lui, c'est le coureur que je connaisse qui a la plus grosse palette, qui était capable d'aller très vite sur 800 et aujourd'hui il est très performant sur marathon. Et c'est celui qui pour moi la plus grosse palette. C'était un coureur de cours, un vrai miler comme on les aime, un vrai coureur de 1500 rapide, fort sur 800, fort dans les courses tactiques, capable de se placer. Il vous fait très mal sur un dernier tour. J'ai le souvenir en 2011 au championnat de France à Albi, Flo gagne, moi je fais deux, et il nous a mis une espèce de sacoche. C'était tout le temps sa tactique de course, on la connaissait. Tu savais qu'au 400 mètres à la cloche, il se mettait devant et il te posait un dernier tour en 50 et des bananes.
C'est un sprint
et tu
de
savais
vélo,
que ça allait
quoi.
Se passer comme
c'est
ça.
C'est un sprinter,
ouais.
Quoi, c'est ça. Ouais.
On le savait et pourtant peu de personnes arrivaient à le battre. Il avait cette capacité de finisher. Et puis aujourd'hui, voilà, maintenant on se retrouve sur le long tous les deux. Et c'est vraiment un bon gars. C'est pour ça que c'est mon pote. Et c'est agréable de l'avoir aujourd'hui.
Tu nous en parles souvent et on est ravis de l'avoir avec nous du coup. Mais cette différence, Florian, elle est même physique. J'ai l'impression, nous, quand on vous voit, c'est vrai sur différentes courses. Toi, t'as pas le gabarit de moustique d'un Navarro ou d'un Durand, quoi. C'est toi, t'as le physique.
Ah,
d'une
bah faut bien les protéger. Ouais. Faut bien les protéger, les deux petits moustiques pendant dans les pelotons. Si à la fin, il faut qu'il y en a qui finissent vite. Voilà. Si on les a pas protégés du vent avant, ils sont plus bons à rien.
Toi, tu fais un peu plus.
Non, non, mais c'est
kilos,
sûr.
Quoi.
Voilà, après. Voilà. Je fais un peu plus, ouais. Je fais même 12 kilos de plus. Non, j'en fais 72, 71. Des fois, ça dépend. Ça dépend. En fait, j'oscille à 72 quasiment tout le temps au fil de l'année. Je suis souvent à 72. Et le maximum que je peux monter, c'est 74. Mais quand je suis à 74, je suis pas en compète. Voilà, on va dire, je suis entre 72 et 73 généralement. Et à l'approche du marathon, je descends peut-être en dessous de 72. Mais c'est même pas dit, quoi, parce que ça dépend, quoi. Donc après, c'est plus, voilà. Moi, je me sens bien à ce poids-là. Alors, j'ai déjà essayé de descendre un peu plus bas, hein, mais beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus, et finalement, je me sens, quoi, ça matche pas forcément mieux. Donc, mon équilibre à ce poids-là, il est bien. Donc c'est sûr que ça paraît un peu énorme comparé à d'autres, et même comparé à tous les autres athlètes qui sont autour de moi. Mais bon, bah jusqu'à présent, j'ai quand même réussi à matcher à chaque fois avec mes armes et mes qualités avec d'autres athlètes qui semblaient plus forts ou on va dire plus maigrichons que moi.
Après, on va pas se mentir, de l'équipe de France de marathon, t'es peut-être le seul qui est passé par le rugby. C'est peut-être ça aussi.
Ah ouais, c'est aussi. Peut-être ça. Mais je suis passé par le rugby. J'étais vraiment très jeune.
Ouais.
Mais non. Mais après voilà, oui, c'est vrai que j'ai quand même, on va dire, j'ai un gabarit et, entre guillemets, une ossature qui n'est pas courant à un coureur de long fond. Mais
comme en fait, rapport poids puissance aussi.
Ouais, voilà. Mais après, c'est ce que je voulais dire et je voulais dire que. Bah, à la vidéo, c'est vrai que même moi, des fois, je me dis, mais putain, mais t'as l'impression, on a quoi, désolé, hein, mais on a l'impression que t'es un Golgoth comparé à tout le monde, alors que dans la vraie vie, on me voit, on me dit, mais je suis tout maigre. Mais c'est vrai que, bah, la vidéo, et puis dès que je fais un effort, mes muscles ressortent.
Ah oui.
Assez quoi, c'est assez impressionnant au niveau des bras, tout ça. J'ai l'impression que ça se démultiplie alors qu'en temps normal
il devient il y a rien. Quand on lui met un dossard,
ça devient sprinter de 100 mètres.
Ah
voilà.
Ouais,
voilà, c'est Jimmy Vico, quoi. Voilà, les cuisses comme ça et les trapèzes, ouais. Quoi. Bon,
faudrait pas que j'arrive au stade de Jimmy Vico, parce que là je pense que le marathon, ça va être compliqué,
évidemment. Tu restes avec nous, on attaque ton CV de coureur du coup.
RMC. Le CV de coureur.
Alors tu as quel âge aujourd'hui?
Ah moi 33 ans, désolé, j'ai cru que c'était d'affilée, excusez-moi.
Et tu cours depuis quand alors? Depuis que t'as quel âge?
Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans comme je l'ai dit, avec d'autres sports en parallèle et puis je me suis jamais arrêté. Donc de 6 ans jusqu'à 33 ans, ça fait 27 ans de licence.
Ah, balèze en plus en calcul mental. Combien de fois par semaine?
Là actuellement on va dire 11 à 12.
Ah ouais, ouais, évidemment quand on est coureur de haut niveau, on est obligé de souvent courir deux fois par jour. Ça représente combien de kilomètres en moyenne, Florian?
Moi en moyenne je pense, si on fait une cumule sur toute l'année, mais je dois être entre 140 et 150.
Ouais,
après en prépa marathon je suis plus vers 180. Et sinon, après, dans les périodes un peu plus light, 120, 130, quoi.
Alors, contrairement à Durand, qui, lui, peut faire la sieste toute l'année, tu n'es pas athlète professionnel. Du coup, tu t'entraînes quand? À quel moment de la journée?
Alors, je ne suis pas. J'étais athlète professionnel, mais je m'entraîne sur le midi et le soir, du coup.
Et oui, tu l'as été, tu ne l'es plus, malheureusement, et tu exerces le métier de policier. On pourra en reparler, d'ailleurs, dans un instant. Est-ce que tu as des records perso ou des victoires dont tu es fier, Florian?
Mon record en 1500 mètres, j'en suis fier, même si je pense que j'étais capable de faire mieux, donc 3:33:47. Ouais. Surtout que je l'ai réalisé trois fois, on va dire, donc c'est quelque chose dont je suis fier. Et des victoires, la victoire, oui, mon titre de vice-champion d'Europe sur 1500 mètres et ma première victoire au championnat d'Europe de cross à Bruxelles, c'est des victoires donc je suis fier, ouais.
Donc ta dernière course disputée, on l'a entendu, ce sont évidemment les France de semi que tu as remporté, donc tu as terminé meilleur français et tu es champion de France. Quelle sera la prochaine course?
La prochaine course, justement, sera les championnats d'Europe de marathon avec la police à Eindhoven, lors du marathon de Eindhoven.
Ouais, ça vient vite, je crois, d'ailleurs. Hein. C'est quand?
C'est dans 15 jours, quoi. C'est le 9 octobre, le même jour que les 20 km de Paris.
Eh ben voilà, choisissez votre épreuve.
Est-ce qu'on fait gagner un dossard pour Eindhoven?
Il faut être policier, merde. Ah ouais, c'est ça le problème. Si on avait des agents de la paix qui nous
peut-être il y en a.
Ah, c'est possible, c'est intéressé. Et puis deux questions pour terminer. Ta séance préférée, Florian?
J'en ai plus trop. Quand je faisais du 1500 mètres, ma séance préférée. Non, j'aime. Ma séance préférée sur 1500 mètres, c'était 2x, 3x500. Avec récup 45 secondes 12 minutes entre les deux blocs. Mais maintenant sur marathon, on va dire, c'est jamais trop vraiment les mêmes séances, même si ça reste, ça varie un peu quand même. Du coup, j'ai pas réellement de séance préférée, mais je sais qu'il y a une ou deux séances chaque fois qui me mettent en confiance dans une prépa, quoi.
Et est-ce que t'as une séance que tu détestes?
Ouais, tout ce qui est séance d'étirement, tout ça, ça je déteste.
Je m'en doutais, mais... c'est marrant, ouais, je sais pas pourquoi je m'en doutais.
Je valide aussi.
Bon, on est donc avec Florian Carvalho cette semaine. On va aborder notre thématique des courses préparatoires dans un instant, mais on va vous en dire plus sur Flo, évidemment. Flo, si je calcule bien, c'est 8 titres nationaux pour toi, désormais. On le disait, t'es un nom du demi-fond tricolore. Très fort dès les espoirs sur 800 et sur cross. Hein. Au début, t'étais vraiment attiré comme ça par les efforts courts, hein, Florian.
J'ai vraiment commencé ma carrière sur le 800 mètres, donc les courtes distances, même dès les catégories cadets, hein, cadets juniors, j'étais sur 800 mètres. Mes premiers titres au niveau international, j'ai pas eu en junior sur 800 mètres, mais j'ai fait quand même quatrième au monde junior sur 800. C'était un choix avec mon coach de travailler la vitesse, qui n'est pas mon point fort de base.
Et toi, c'est quoi la résistance alors? C'est la passion.
Ouais, moi je pense que je suis quand même quelqu'un d'endurant de base et d'assez puissant. Mais j'étais pas rapide, pour tout vous dire. Quand j'ai commencé l'athlétisme, quand j'étais Benjamin Minim, je me faisais battre par des filles sur 150 mètres. Les Sir James, je sais pas si ça parle à certains. Je prenais des tôles sur des 150 mètres. Je donnais ma vie et je me faisais battre par 2-3 filles à chaque fois. Et après, j'ai commencé à en battre une, deux, et puis voilà, fil en aiguille, j'ai monté. Mais ça m'a pas empêché de faire le record de France minime, qui est 2:30.16. Je l'ai fait en faisant 30 secondes à chaque 200, quoi. Donc c'est purement sur de la résistance du foncier que de la qualité de vitesse, quoi.
Comment on choisit ces distances? Bon, après t'es cadet, tu passes en espoir, etc. Tu fais le cross aussi un petit peu, mais comment tu choisis entre le 800 et le 1500 par exemple? C'est vraiment par rapport à tes qualités pures et dures? C'est ton entraîneur qui te dit faut que tu t'orientes vers le 1500 parce que sur un peu plus de 3 minutes 30 t'es capable de conserver une allure très intéressante?
Au début moi c'était le 1500 mètres, pour moi c'est la plus belle course du demi-fond, quoi. C'est vraiment la course reine et la course
que de la souffrance
que j'apprécie. Ouais, et qui englobe tout en fait, parce que faut être résistant, faut être rapide et faut avoir une intelligence de course. Je dis pas que les autres, il faut pas d'intelligence de course, mais je veux dire, ça englobe vraiment tous les facteurs du demi-fond.
Bah, disons que sur du sprint, comme... tu réfléchis moins, quoi. Sur du 100
ou 200. Oui. Ouais. Et du coup, moi,
sur 5000, 10000, le plus fort gagne, généralement.
Ouais, voilà.
Ouais, et moi, j'ai vraiment, du coup, travaillé le 800 mètres pour pouvoir, m'améliorer sur le 1500 mètres. Vu que je savais quand même que ma pointe de vitesse et ma vitesse étaient un facteur limitant pour moi. On a quand même bossé ça pour ensuite prendre réellement plaisir et comme Yodul l'a dit, faire un peu mal dans les derniers tours. Donc après aussi mes tactiques de course étaient basées là-dessus, c'est que j'étais rapide, mais rapide sur du long, une bonne résistance vitesse, mais oui. J'étais pas rapide sur un pur dernier 200 mètres. Je pense qu'il y avait beaucoup plus fort que moi. Donc c'est pour ça que j'attendais jamais la fin de course pure et dure, parce que à ce jeu-là, tu peux toujours tomber sur plus fort que toi.
Et oui, c'est le problème de ce type d'épreuve, c'est que chacun joue avec ses qualités. Toi, Johan, aussi, t'as percé jeune, t'as démarré très tôt l'athlé dans l'adolescence, mais tu t'es orienté sur des distances un peu plus longues, toi, tout de suite, hein, sur du 5000 notamment.
Pourtant, j'avais des bonnes qualités de puncher, de vitesse et tout ça, de vitesse pure qui me viennent du foot, tu vois, d'être capable de changer de rythme et sur des appuis sur 50 mètres d'être quand même assez rapide. Je pense que je suis plus rapide que un Flo ou un Johan Koval. Johan Koval, par exemple, qui a fait 3:33 aussi, m'a jamais battu sur une séance de sprint ou de côte. Je suis beaucoup plus rapide que lui en termes de vitesse pure.
D'accord.
Mais par contre, il a un meilleur record que moi sur 800, sur 1500.
Parce qu'il résiste
en termes
plus
de
longtemps.
Résistance, ouais, il résiste plus longtemps. Et donc moi j'avais cette capacité là, mais j'aimais le long et mon coach a tout de suite vu, détecté en moi avec mon petit gabarit, j'étais quand même assez frêle quand j'étais jeune, et que aller batailler dans des gros j'ai grandi quand même, parce que cadet j'étais vraiment petit et aller batailler dans des pelotons faire sa place et tout, j'osais pas trop. Et comme on l'a dit tout à l'heure, généralement sur les distances plus longues, le 3000 ou le 5000, quand on est cadet junior, il y a moins d'aspects tactiques. Et c'est plus facile de faire sa place dans le peloton que sur le 800 et 1500 mètres.
Ce qui est marrant avec toi, Florian, c'est que comme on l'a dit avec Johan, t'as un éventail qui est très large. Du coup, toi, t'as croisé tous les gars du petit milieu de la course à pied française, quoi. T'as croisé Hassan Chadi, avec qui tu dois avoir une relation particulière parce que tu le croises partout sur 10 km, sur marathon, sur semi, sur 800, un peu partout. Vous êtes un peu la même génération.
On a vécu de belles choses en cross aussi avec Hassan.
Voilà.
On se bagarrait dès les catégories cadets, on s'est bagarré en cross. Alors que j'étais un coureur de 800-1500, lui, il n'arrivait pas trop à passer le cap sur la piste, mais il était un vrai crossman, j'étais pas mauvais en cross. Du coup, on a fait des belles courses et des beaux duels, quoi.
Parce que tu t'es battu aussi contre Durand, contre Koval, contre tous ces mecs finalement. En fait, vous êtes c'est un petit milieu. Au départ, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes distances, mais forcément, un jour, les routes se croisent, quoi.
Ouais, on s'est tous retrouvés. Après, c'est ce qu'on me dit. On part en stage, en préparation, plus ou moins au même endroit, à la même période. Et après, il y a eu les équipes de France qui nous ont permis de nous souder aussi et de nous rapprocher. Voilà, quand on fait une sélection d'équipe de France, il y en a un qui est sur 800, 1500, l'autre sur 5000, etc. 3000 types au début, Yoko, chacun va soutenir l'autre au stade, chacun les supporte et on souhaite le meilleur à tout le monde. Donc après, de fil en aiguille, naît une relation amicale et après, on s'est retrouvés sur les mêmes distances, mais on a su faire la part des choses. C'est pas parce qu'on était concurrents sur la piste que, en dehors, on pouvait pas toujours passer du bon temps et être ensemble, quoi.
D'ailleurs, on le ressent parce qu'on a reçu désormais pas mal de tes concurrents directs, Johan, pour le marathon de Paris 2024, et on sent aucune animosité entre vous, en fait. À un moment, chacun sa perf individuelle et que le meilleur gagne. Il n'y a pas d'excès de tension entre vous, quoi.
C'est exactement ce que je dis. C'est que faut que ça soit la meilleure équipe possible qui soit au jeu de Paris 2024. Après, si chacun réussit son chrono ou fait le chrono qu'il espère faire et que, malheureusement, il est battu par plus fort que lui, tant mieux pour la France et tant mieux pour les Jeux de Paris. Mais voilà, avant tout, on est là pour faire une perf. Moi, dans l'idée, j'aimerais bien faire 2h08 plus ou moins, 2h08, 2h08:30 là, si je me trouve, j'arrive à faire un chrono pour les Jeux de 2024 à cette hauteur-là. Ouais. Pour moi, j'ai rempli mon job, entre guillemets. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Après, s'il y a plus fort que moi.
Voilà
exactement. Ouais. Si après, il y a plus fort que moi, tant mieux pour eux et je leur donnerai tout mon courage pour les Jeux de 2024, quoi.
C'est vrai.
Avant tout, on a chacun un objectif personnel. Et on sait qu'on a chacun les possibilités, si toutes les planètes s'alignent et si tout se passe bien pour faire partie du voyage, pour être au départ du marathon des Jeux de Paris. Mais après, on sait qu'il n'y aura que trois places et que malheureusement, on est plus que trois à pouvoir y prétendre. Donc, il y aura forcément un choix à faire.
Johan, ouais, c'est vrai, on le ressent. On a reçu beaucoup de monde. Hein, désormais, on a reçu Navarro, on a reçu Benjamin Schocker, on a reçu Johan Koval, on reçoit Florian Carvalho.
Michael Gras.
Michael Gras, oui, il y a quelques jours. C'est ça, en fait, la bataille, elle est, comment dire, à la régulière, quoi. Il y a pas de tension.
Ouais, non, c'est ça. C'est un peu ce que le bilan qu'on avait fait là après les championnats d'Europe de Munich où par équipe on termine quatrième. Nous, on avait fait valoir auprès de la fédération qu'on cherchait à s'entraîner ensemble pour préparer, tirer tous dans le même sens, pour préparer les Jeux Olympiques. Parce que la fédération aujourd'hui a une chance, c'est que les 7-8 athlètes qui ont le potentiel pour faire les minima pour les Jeux Olympiques et se qualifier, il y aura certainement 3 Français au marathon de Paris parce que voilà, on a le niveau pour y arriver et tous on s'entend bien, donc c'est une chance. Donc si on pouvait essayer de préparer les mêmes événements et que la fédération nous aide vraiment à ce qu'on puisse s'entraîner en groupe, créer une vraie émulation entre tous, ouais. Bah c'est une force collective. S'entraîner avec un mec comme Flo pendant 3 semaines, je peux vous dire que vous progressez parce que c'est un mec qui tartine, qui charbonne tous les jours.
Bah oui,
alors Flo fait partie de ces athlètes qui, à l'inverse de Nicolas ou moi, ne peut pas courir en dessous de 13-14 km/h, c'est son grand max.
Le courir lentement, ça marche pas.
Courir lentement, c'est impossible. Et encore, il a progressé là-dessus. Mais à une époque, il faisait demi-tour. Il courait devant nous, il faisait demi-tour, il revenait nous prendre pour pouvoir passer 20 secondes avec nous, puis après il nous relâchait forcément parce
que c'est
nous,
quoi, c'est un blocage psychologique?
Il faut lui demander, hein.
Bah ouais. Non, c'est pas un blocage psychologique, c'est juste, bah, voilà, depuis tout jeune, j'ai toujours fait mes footings à peu près vers 15 à l'heure, quand je faisais du 15, du 800. Ah ouais. Et avant, surtout, je faisais des footings, ça dépassait jamais 25-30 minutes. Et après, là, j'ai commencé à monter sur long, mais j'avais gardé cette habitude et c'est vrai que physiquement courir en dessous de 12, j'ai presque plus mal partout que de courir à 13, 14 ou 15 quoi. Donc j'ai l'impression que ça me fait mal partout, honnêtement, mal au genou, mal au dos, genre un vieux quoi, que j'ai l'impression d'être un vieux grand-père quoi.
Bah faut enlever les chaussures carbone, faut mettre des chaussures toutes pourries et puis voilà, ça
ira. Ah mais j'ai des chaussures toutes pourries, les chaussures carbone, je m'en sers pas tant que ça. Non mais je veux dire, je fais les efforts justement pour. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que bah quand on court à 13, normalement, on est quand même
dans
un secteur qui est quand même très bas pour nous. Hein.
Bien sûr. Ouais.
Donc pour vous, ça vous paraît déjà rapide.
Durant, c'est un flemmard. On le sait.
Après, c'est voilà, exactement. Après, ouais. C'est Yodus. Si moi, faire un footing, on me dit on va faire un footing, on fait 1h10. Honnêtement, je suis à deux doigts de rester dans mon lit. Hein. Je préfère rester dans mon lit qu'aller faire 1 heure de footing à 10 km/h.
Non, mais on peut le comprendre.
Donc après, je sais que je dois travailler là-dessus et qu'il faut que je le fasse parce que c'est important quand même. Ça a quand même des facteurs importants. Mais voilà, j'ai pas été éduqué sportivement comme ça. Mmh. Et du coup, bah, faut vraiment que je prenne sur moi. Donc alors après, quand je suis en stage, ça permet justement de freiner. Vu que t'es pas tout seul, tu vois tout le monde faire pareil. Tu le fais. Quand je suis tout seul dans la forêt de Fontainebleau et qui fait moins 5 ou 5 degrés et que la seule chose que tu crois c'est une biche.
Il y a un sanglier au cul, il est obligé de courir vite.
Voilà, t'as envie de vite rentrer chez toi et pas de rester en forêt à courir à 5 à l'heure, quoi.
Pour revenir à tes souvenirs de coureur, la période 2011-2012, c'est ta meilleure période, Florian. Il y a eu ces jeux à Londres, même si t'es sorti malheureusement en demi-finale.
Ouais, alors moi je pense honnêtement la saison où j'étais le plus fort, je pense que ça devrait être 2011.
Ouais.
Là où je fais mon titre de champion d'Europe espoir, ouais. Et où je suis champion de France derrière et je me qualifie pour les championnats du monde à Daegu en ma première sélection senior.
Ouais.
Et au niveau de l'été, mais sauf qu'à Daegu, j'ai attrapé un espèce de virus grippe juste à 2 jours avant la série. Et du coup je me fais sortir en série en 3:53. Et j'ai un souvenir horrible de cette course, c'est que en fait à chaque chose qui se passait dans la course, je savais 5 mètres ou 10 mètres avant, lui il va accélérer. Et là il a accéléré. Lui il va se placer.
Ah, t'avais
là.
Tout prévu, là. Mais les gens n'étaient pas là quoi.
Je pouvais rien faire. Je subissais tous les moindres attaques, le moindre changement de rythme, je subissais, je prenais 5 mètres, je recollais difficilement, etc. Et le dernier 100 mètres, je me rappellerai toute ma vie, je me fais doubler par un gars qui est pieds nus. Et pendant 30 mètres, j'ai l'orgueil de vouloir résister. Et j'ai passé le dernier centimètre de la course, le plus horrible de ma vie. Je savais même pas où je courais, je voyais plus rien.
Ah ouais.
Des étoiles de partout, je suis arrivé à l'arrivée et j'ai mis un quart d'heure à remonter dans la zone mixte, quoi.
Mais c'est marrant parce que pourtant, en 2012, ça marche bien. T'es champion de France du 1500, tu es devant Scoval d'ailleurs. Tu fais les championnats d'Europe où là, tu termines à 13 centièmes de la légende, l'extraterrestre Ingebrigtsen, évidemment, le Norvégien.
Mais là, c'est son frère.
Ah oui, c'est son frère.
C'est son grand frère.
Ah oui, c'est Henrik.
Parce que sinon, lui, c'est dans l'autre sens. Plus il prend grand, il en perd, du coup.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Moi, je suis passé à 35 ans et lui, il en a que 21
c'est
ou,
ça,
10,
ouais,
ou
exactement.
20.
Mais il y a, pourtant, tu goûtes au jeu. Enfin, c'est pas un souvenir si extraordinaire.
Non, mais c'est un souvenir énorme. Non, je dis pas que les tu m'as demandé là, mais là,
c'était
moins
fort.
T'étais moins fort.
Ouais. Où j'étais le plus fort, pour moi, c'est 2011, mais 2012, je pense que j'étais moins fort. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, et ce qu'on dit à tout le monde, c'est que les années se suivent et ne se ressemblent pas. J'ai essayé de calquer à peu près la même préparation que 2011, donc essayer de faire à peu près les mêmes séances, parce que on savait ce qu'on avait fait en 2011, et ça avait plutôt bien marché. Et en fait, j'ai réalisé à peu près les mêmes séances, sauf que j'avais pas du tout la même facilité. J'étais beaucoup plus à chaque fois dans le dur pour les faire, beaucoup plus. Et en fait, ça s'est vu que en fait au JO, je me fais sortir en demi-finale avec mon record de la saison en 3:37. Mais voilà, c'était pas. Je sentais moi que quand je courais, il y avait un truc qui allait pas, et j'arrêtais pas de le dire à mon coach. Et en fait, ça, le titre de champion de France, le titre de vice-champion d'Europe, il a masqué ce problème
ce
parce
problème
que ça,
préparation.
Lui, ça l'a pas. Ouais. Voilà, moi en fait, il pensait que c'était vraiment juste mon ressenti, etc. Mais moi, j'arrêtais pas de lui dire. Mais pour lui, vu qu'il y avait les titres et tout ça, il avait l'impression en fait que d'avancer dans le bon sens aussi. Donc, ça peut se comprendre. Hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que maintenant, en fait, les séances clés ou les séances qu'on aime bien, c'est parfait. Mais ça veut rien dire. Des fois, une année sur l'autre. Des fois, on peut faire des séances clés un peu moins bonnes, et pourtant, on va faire un résultat bien meilleur.
D'où l'importance, Johan Durand, de bien écouter ses sensations, même à très haut niveau.
Ouais, de bien les écouter et d'être capable de les dire à son entraîneur et puis d'être écouté, d'avoir un entraîneur qui peut-être adapte en fonction de. Si Flo se sentait moins fort cette année, sur un secteur court, peut-être de privilégier le court ou le long, enfin, je sais pas. Mais ouais, c'est important d'écouter ses sensations. Et tu mets un athlète, Flo le dit très bien, c'est que pourtant il était jeune à cette époque-là et il se connaissait déjà et il sentait que pour faire les mêmes chronos, il était obligé de plus en mettre que l'année d'avant. Et au bout d'un moment, sur la longueur d'une saison, ça tient pas dans le temps. Et puis, malheureusement, c'est pas passé, ouais.
Quand est-ce que tu te dis, Flo? Je vais monter sur marathon. Ça y est, j'ai fait le tour de la piste.
Après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même toujours aimé plus ou moins les efforts, on va dire, d'homme à homme, les trucs un peu durs, un peu rudes. J'ai adoré faire le cross. Ouais. J'ai fait le cross pendant pas mal d'années. Les championnats d'Europe, etc. C'est des compétitions vraiment fantastiques à faire et à vivre. Surtout qu'en plus, quand t'as la chance de les gagner et d'avoir des collectifs qui obtiennent les titres, c'est magnifique. Mais moi j'ai toujours dit je ferai un marathon dans ma carrière, je ferai un marathon dans ma vie. Et de fil en aiguille, après je voulais pas faire un marathon pour faire un marathon, je voulais quand même
bien
faire
sûr.
Un marathon et le préparer et le courir. Ah oui, non mais même avant je disais ça, je ferai un marathon mais pas pour le faire en 5 heures ou en 4 heures, c'est vraiment faire un marathon. Voilà, je voulais faire un marathon avant la fin de carrière officielle, pas le faire après. Comme souvent il y en
quand
a qui le font
bide,
en dilettante. Ouais. Et ce qui s'est passé c'est que en 2000 je sais plus en quelle année en 2008 c'est en fait ce qui m'a fait dire ça, c'est qu'en 2006, je dois faire les festivals olympiques de la jeunesse européenne, je sais plus où, et on apprend que en fait il devait avoir les Jeux à Paris en 2012, et quoi, il avait la proposition pour que les Jeux soient à Paris en 2012, finalement c'est Londres, etc. Ouais. Et quand en fait j'ai appris que en 2012 ça allait être Paris en 2024.
Eh oui,
ou je sais plus en quelle année on a appris que c'était Paris. Là, je me dis, c'est banco.
C'est la suite
pour moi,
logique,
c'est 35 ans. Voilà, marathon. Voilà l'objectif, finir sa carrière sur marathon à Paris. Et c'est devenu un peu comme ça. Alors après, je suis monté assez. Moi, je vous cache pas que à la base, c'était prévu de monter après les Jeux de Tokyo sur marathon. Sauf que j'ai changé de coach en 2018, quoi, début de saison 2017-2018, septembre 2017, on va dire. Et du coup, on a fait le choix de avec ce coach-là et le staff de passer sur marathon à ce moment-là.
De tester un peu.
Justement
déjà.
Parce qu'on savait pas si l'adaptation allait se faire rapidement ou pas. Donc,
heureusement qu'on l'a fait. C'est celui de 2019, le 14 avril, là où tu fais 2:12. C'est celui-là, ton problème?
Le tout premier, j'avais fait en 2018, j'avais fait le 10 000 du coup au championnat d'Europe à Berlin.
Ouais.
Où je fais finaliste et 4 semaines après je fais un marathon à Varsovie et je fais 2h15 30 ou 20 et là c'est pareil donc et sauf que j'ai fini j'avais des crampes et aussi j'avais une prépa quand même très courte mais j'avais une prépa et du coup Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bah ouais, c'est parce que la prépa, elle était courte, du coup, bah, ça a pas tenu, t'as crampé, etc. Sauf que, bah, à Paris, on s'est rendu compte que, bah, je fais 2h12:53. Mais pareil, ouais, fin de course compliquée, à deux doigts de cramper, j'avais des boules de pétanque dans les deux ischios. et là, on s'est dit,
beaucoup plus vite que ton chrono final. Ouais, t'as perdu beaucoup de
1h05, bah, je passe avec Mourad en 1h05:20 et du coup, je fais 1h07 et quelques.
Ah oui, d'accord.
Mais souvent, je fais 1h07 à mes deuxièmes semis de chaque marathon, hein. À chaque fois que je fais mes chronos, je suis pas loin d'une heure sept derrière.
Bah, passe une la prochaine fois. C'est ce que je me demande.
59 au semi, puis là, tu
59,
ça, tu peux dérouler tranquille.
Ouais, bon, ça, 59 au semi, faut les valoir sur un semi pur.
C'est sûr.
Et après, on envisagera de passer. Et non, j'allais dire, bah oui, mais voilà comment c'est arrivé, quoi. Et du coup, mais on a commencé, ouais, j'ai commencé mon premier marathon en 2018 et depuis, bah, j'en ai fait 6-7 avec Munich, dont deux que je me suis arrêté à cause de crampes.
Voilà.
Et le dernier où je me suis arrêté à cause de crampes, c'est avec Yodu, mais ça, c'est parce qu'il m'a porté malheur.
C'est ça.
je l'ai emmené tellement bien jusqu'au 31 qu'après, il m'a dit, vas-y, je te laisse.
Ah, c'est ouais. 2021?
Ouais, à Paris,
non,
là.
Bah, à Paris, là. En octobre, ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, octobre, ouais, c'est ça. 2021. Quand Yodu fait son record en 2h09, c'est toi qui l'emmène. Bah, merci.
Ouais.
Merci bien.
Je l'ai abrité du vent, du vent pendant 31 bornes.
Le lièvre parfait.
Ben voilà.
Mais j'ai pas eu les royalties derrière.
Alors que lui, il avait son 4x3 au salon du marathon de Paris et tout, quoi. Lui, il était en photo partout.
Exactement.
Ouais,
et il a tout fait après. Il a fait tous les plateaux et tout, je me rappelle.
Bah, tu vois, nous, on l'a recruté. tu vois comment ça s'est passé, quoi. Et ouais, comme quoi, ça tient.
Voilà, bah, du coup, tu vois, t'aurais pas dû le recruter que lui. T'aurais dû me recruter à moitié.
Bon, voilà.
Au moins, sur les. Sur les 3 premières minutes d'émission, c'est moi qui parle.
Bah, quand
et
tu veux.
Après, il fait la fin, vu qu'il arrive bien, il arrive bien à finir,
voilà,
tu vois.
Partager le boulot, quoi, c'est très bien.
Voilà.
Non, mais la question, c'est ta résilience. Parce que c'est vrai que t'es un champion sur les courtes distances. T'as des mauvaises expériences sur le marathon, jusqu'à très récemment, puisque en août, t'as fait un chrono, je crois, un peu plus de 2h20, qui est pas du tout dans tes standards.
J'ai même pas regardé le chrono, je crois que 2h21.
Ouais, voilà, tu vois.
Je fais 2h21, mais l'objectif était de passer en 1h06, je passe 1h06:15. Donc jusque-là, tout allait bien, mais j'ai crampé très tôt, quoi. Au 24, j'ai un début de crampe, et après, j'ai vraiment crampé au 32. Et là, je me suis arrêté 2 minutes 30. Je me suis dit, bah, si tu repars, c'est pour finir. Donc
ah
après,
oui,
je repartais,
carrément.
Mais j'ai fait les 10 derniers kilomètres, c'était vraiment un calvaire. Donc j'ai fini pour le maillot et parce que bah voilà fallait finir et j'avais fait toute une prépa voilà j'ai une vie de famille aussi à côté donc quand tu mets juillet août entre parenthèses pour être performant il y a ta famille qui est sur place du coup bah j'ai fini c'est vrai que je dois finir et que le chrono à la fin oui il est anecdotique et mais bon bah il représentait ce que je valais le jour J avec les problèmes musculaires que j'ai eu c'est tout quoi.
Non mais ce que je veux dire c'est que t'as 35 ans, t'as un palmarès bien fourni et malgré tout même si tu
33
sens...
encore.
33
bientôt
pardon.
35.
Excuse-moi.
Mais...
33. Mais c'est que tu gardes la motivation d'être bon sur marathon alors que la distance pour l'instant t'es pas favorable, c'est ça que je veux dire, tu vois, c'est tu restes motivé.
Oui, bah après mais justement mais moi je trouve mais justement et je trouve que c'est ça le qui est beau et qui
ah bien sûr que c'est beau bien
qui
sûr.
Donne le challenge
c'est les défis
qui donne le challenge, et qui me donne voilà c'est comme je le disais c'est qu'avant tout j'ai un chrono personnel et un défi personnel à réaliser et je sais que si je le réalise j'ai de fortes chances de pouvoir aller au JO ou de faire des championnats et d'être dans les meilleurs athlètes français voire européens etc donc mais avant tout je le fais pour moi et je sais que je suis capable de courir vers 2h08 et je ferai tout pour réussir alors après ça fonctionne pas. Si j'ai tout mis en place et que j'ai essayé un maximum de temps et ben je me dirais bon c'est pas grave. Mais au moins je me serais investi voilà pour pas avoir de regrets.
Alors justement et ça c'est important ce que tu viens de dire parce que ça peut parler aussi à tous ceux qui nous écoutent les athlètes amateurs. Johan, beaucoup d'entre nous ont eu des mauvaises expériences sur marathon, souvent sur les premiers d'ailleurs parce que soit la prépa a été mal gérée, soit l'événement est mal appréhendé. Mais c'est important d'avoir un champion comme Florian Carvalho qui nous dit moi je garde la motivation, je sais que je peux valoir tel temps. Admettons si votre objectif c'est de passer sous les 3h30 un jour, 3h15 ou 3h, il faut rester motivé même si une expérience marathon peut mal se passer quoi. C'est pas pour ça que c'est
Non mais c'est une preuve de résilience voilà. et la course à pied c'est un peu ça, c'est des défis qu'on se lance et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup, c'est comme ça, c'est dans la vie hein, même dans tout ce qu'on fait en général, on réussit pas du premier coup. C'est prendre de l'expérience, essayer de comprendre pourquoi ça a pas marché, et après bah, définir un nouveau plan pour se dire bon bah voilà, ce coup-ci je vais faire ça pour que ça marche, parce que j'en tire telle conclusion, et rebondir de chaque échec. Au contraire, c'est quelque part un plus. Flo sait que maintenant il a sept marathons derrière lui, il a l'expérience de la distance. La distance, ça lui fait pas peur. La seule difficulté qu'il a, c'est à régler ce problème d'ischio, de problème musculaire. Et le jour où il aura réglé ce problème-là, bah, ça il fera de 7, de 8 sans aucun problème. Alors, donc c'est sûr qu'il faut garder confiance et toujours se dire que c'est pas parce que j'ai échoué une fois que je vais échouer 10 fois quoi.
Exactement. Il faut pas se mettre de barrière psychologique en se disant j'y arriverai jamais.
Ouais, c'est ça.
Et pour ajouter, sinon ça aurait pas la même saveur aussi. Si ça serait
c'est
tellement
vrai. si ça serait si simple,
on n'aurait pas la même saveur et la même satisfaction.
Regarde.
La satisfaction, elle vient parce que bah il y a quand même de l'investissement et du travail derrière.
Voilà.
Et c'est ce qui nous fait plaisir, et c'est ce que tout le monde est satisfait quand il réalise son objectif. Parce qu'il a dû s'est donné les moyens, il a mis en place plein de paramètres, plein de choses pour y arriver.
Regarde.
Après, chacun son chrono, chacun ses objectifs et chacun son but. Hein. Moi, je respecte tout le monde et c'est pour ça que même les personnes qui finissent le marathon en 5 heures, si c'était leur objectif, ils sont super fiers d'eux et ils le méritent. Et c'est tout à leur honneur et c'est beau.
Non, mais là où t'as raison, c'est que regarde, Kipchoge qui va encore gagner Berlin ce week-end, il n'y a aucun mérite, lui, il souffre jamais. Donc, finalement...
qu'il aille sur 100 km ou en trail, se mettre un peu au défi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faudrait pas lui dire que l'arrivée elle est au 42, faudrait le laisser continuer un petit peu. Faudrait reculer l'arche d'arriver un peu plus.
Je pense que le gars est tellement réglé au millimètre que même sans les chronos, enfin les distances affichées, il saurait s'arrêter au bon moment. Tu sais, il est tellement dans sa tête que à mon avis, il est tellement matrixé le gars que ça devient assez dingue. On le disait, donc tu as été athlète professionnel, tu ne l'es plus malheureusement aujourd'hui. Bah déjà, comment tu le vis et comment
je le suis toujours pour moi hein, mais
oui voilà, mais malheureusement, faut aller au boulot, quoi.
On va dire, voilà, c'est que là, j'étais sur les listes de haut niveau jusqu'à l'année dernière.
Ouais.
Malgré la saison avec mon titre de champion de France en 27-55, les minima réalisés pour les JO de Tokyo, etc., apparemment, c'était pas suffisant. Et ils m'ont sorti des listes, je suis passé sur collectifs nationaux, ce qu'ils appellent collectifs nationaux. Sauf qu'avec cette liste-là, tu peux bénéficier d'aucun aménagement de travail, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la marcheuse Beretta, qui d'ailleurs a fait un très bon championnat d'Europe à Munich. Elle est travaillée à la poste, ils l'ont enlevé des listes. Du coup, elle a fait le choix de démissionner pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc, elle a eu raison parce qu'à Munich, ça s'est très bien passé. Donc, à Munich, là, avec sa paire, je pense qu'elle risque de retourner sur les listes. Mais le problème, c'est que bah maintenant elle a plus de travail, quoi. Donc c'est bien d'être retourné sur les listes, c'est bien d'être sur les listes, mais quand t'as aucun emploi à côté,
non mais c'est sûr,
qui te détache, ça te sert pas à grand chose. Mais quand on a besoin et que t'y es plus, bah voilà. Alors moi, cette année, cette année avec les pertes que j'ai fait, on me sort des listes. Je trouvais ça totalement justifié et juste. L'année dernière, je trouve ça un peu plus dur. Mais maintenant, c'est fait. Et du coup, bah, j'ai perdu mon aménagement de temps de travail. Donc, je suis amené à aller travailler tous les jours. Du coup, au moins jusqu'au 1er janvier.
Au poste.
Car après, au 1er janvier, j'ai fait la demande d'être avec toutes mes années passées d'athlète de haut niveau, j'ai fait ma demande d'être sur liste reconversion. C'est-à-dire que j'ai le droit à un an.
D'accord.
Sur lequel je suis détaché pour pouvoir préparer un diplôme ou un concours, etc.
Okay.
Et pendant cette année, voilà. Et pendant cette année-là, je suis détaché comme si j'étais sur liste de haut niveau.
D'accord.
Et du coup, bah, ça sera après à moi d'en faire ce que je veux, quoi.
Ouais. Mais c'est un vrai problème parce qu'on est entre à guillemets, deux ans des Jeux Olympiques.
Bah, bien
et
sûr,
que,
c'est maintenant que ça joue.
D'un point de vue, ministériel et toutes les teintes pensantes qui, normalement, auraient dû mettre des choses en place pour que nous, athlètes, on soit dans les meilleures conditions pour s'entraîner à deux ans des Jeux, comme l'ont fait les Anglais très bien. Quand ils ont eu les Jeux Olympiques, ils ont tout de suite mis les moyens pour le sport de haut niveau, pour pouvoir faire des médailles. Et nous, on a fait l'inverse. On a tapé dans les listes. On avait peut-être une centaine d'athlètes listés en athlètes. Et aujourd'hui, il y en a peut-être plus que 50 ou 60.
On a limité les chances.
On a clairement limité nos chances en mettant des athlètes comme Flo ou d'autres de côté, quoi.
Exactement.
À deux ans des Jeux, c'est une aberration.
Et pour la fameuse Beretta, la marcheuse, moi, je pensais qu'elle travaillait plutôt dans l'armée, du coup.
Non, je crois que c'était à la poste. Alors,
non, ah, Beretta, ok. Moi avec Beretta, avec...
Oui, c'est bon.
Mais il faut pas relever. Ne relève pas quand tu fais ce genre de blague.
Non, j'ai entendu un peu quand je l'ai compris après.
C'était la blague, mais c'était pour lui rendre hommage d'une certaine façon. C'était pas facile à dire. Flo, revenons sur l'actu du week-end dernier, donc ce titre de champion de France de semi sur semi à Saint-Omer. Important pour toi de rebondir rapidement après Munich, c'est ce qui s'est passé. Tu savais que forcément la concurrence était accessible, tu avais le meilleur chrono de tous les inscrits, et puis t'as justifié cela en t'imposant, en allant chercher le titre national, même si certains disent oui, mais il a pas gagné la course, il termine deuxième derrière le Marocain El Maimouni. Mais bon, l'important c'est de terminer premier français sur des championnats de France.
Ah oui, non, mais c'est ça. Alors ouais, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment voilà, j'ai quand même travaillé juillet août pour Munich. Ça s'est mal passé à Munich, donc je voulais quand même mettre à profit cette préparation. J'ai quand même profité après de la fin du mois d'août avec ma famille, ma femme et mes enfants. Et quand je suis arrivé à la fin, quoi, début septembre, normalement il devait avoir Margot Sierraki aussi du club de Pays de Fontainebleau qui devait participer. Et je me suis dit, bah attends, tu vas pas y aller toute seule, vas-y, je vais venir avec toi. Et de fil en aiguille, elle a fait le choix inverse de plus y aller. Sauf que bah moi, vu que je me suis engagé, j'ai dit bon bah vas-y, j'y vais. Et puis voilà comment je me suis retrouvé à Saint-Omer à courir. Donc effectivement, voilà, j'avais le meilleur chrono des engagés. J'ai gagné le titre de champion de France, j'ai pas gagné la course. Mais heureusement aussi pour moi qu'il y avait pas aussi une grosse densité au niveau, il y avait pas les
Johan Durand,
il y avait pas les Benjamin Choquet, voilà. Il y avait pas les Michael Gras, tout ça. Parce que honnêtement, j'étais pas dans la
t'étais
forme de ma vie non plus.
Hein. Vu l'état de forme de Durand, je pense que t'aurais gagné quand même. Là, à mon avis,
en ce moment, je le prends à l'apéro barbecue.
Ouais, ça c'est possible.
Voilà.
Ou au bricolage.
Non, mais voilà ce que je veux dire. Donc après, oui, le Marocain, il a été très fort. Et comme je le disais, je l'ai fait un poste où j'ai marqué clairement qu'il méritait de gagner parce la course, il a été acteur. Il a pris des relais. Quand il y avait le vent de face, il était souvent devant aussi. Voilà, faut savoir dire quand les gens sont plus forts que soi le jour J. Et là, ce jour-là, il était plus fort que moi. Alors peut-être qu'il avait plus préparé que moi, ou peut-être qu'il était plus en forme que moi, parce que c'est un réel objectif pour lui ou une course de prépa, mais assez importante pour lui. Moi, voilà, je suis vraiment venu. Bah, je voulais le titre, au moins le podium. Mais voilà, je suis plus venu quand même aussi pour prendre du bon temps et voir où j'en étais. Réellement, voilà, ça fait du bien comme je l'ai dit, mais voilà, je finis deuxième et bah si on m'aurait pas donné le titre de champion de France parce que j'aurais été deuxième, bah c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas un souci. Donc oui, voilà, je finis deuxième de la course. Mais ce qui est plus important, c'est que voilà, on a eu quand même, ça faisait du bien de revivre une course comme ça et d'avoir cette émulation et de jouer quelque chose à la fin. Ça faisait un petit moment que j'avais pas vécu ça et c'était plaisant.
Et ça permet de tourner la page. Allez, tout de suite, on passe à la séance.
RMC, la séance.
Et alors Florian, puisque tu débarques avec nous, je t'explique le concept. Avec Johan Durand, on encadre la préparation de 4 membres de la Dream Team RMC Running. En fait, ils ont gagné fin août un magnifique package. Leur dossard pour le marathon Nice-Cannes le 30 octobre, avec la tenue RMC Running magnifique, et les conseils de Johan Durand avec une préparation encadrée, un plan d'entraînement. Imagine, c'est pas beau ça?
Ouais, c'est pas beau. J'aimerais bien voir la préparation physique de Johan Durand à ces 4 athlètes.
Et bah tu sais quoi, on va pouvoir en parler.
En abdos gainage, j'aimerais bien voir ce que ça donne.
Ah, mais il rigole ou quoi? Non, mais t'as pas vu mes dernières photos et mes abdos quand je suis affûté?
Alors là, autant sur le bricolage, j'ai des doutes, autant sur la muscu. Bon.
Non, mais Yodu est cher, il fait 3 abdos, il a des tablettes de chocolat jusqu'à fin août.
C'est vrai que c'est un avantage que tu
J'en fais une fois par semaine et je suis dessiné comme Cristiano.
Exactement.
Alors qu'il en fait 1000 par matinée.
Alors, les gars, on va accueillir Julien qui est membre de cette Dream Team RMC Running dans cette opération Nice-Cannes. Salut Julien!
Salut Yohan, salut Benoît, salut Florian.
Et alors, comment ça va Julien? T'es en forme?
Mais ça va très bien, merci à vous.
Bah ça va, t'es à 5 semaines de l'objectif là mon vieux là. Oh, les choses sérieuses, t'es en plein dedans là.
Bah on est à fond, hein.
Eh ouais.
On est à fond, on s'en rapproche, doucement mais sûrement.
Voilà, prépa de 10 semaines.
Bah il faut.
Voilà, on est à la moitié. On rappelle d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et pour Florian que on a choisi 4 profils différents, donc des objectifs bien divers, et que Julien lui son objectif c'est de terminer le marathon parce qu'il a jamais parcouru la distance du marathon. Donc toi déjà c'est l'objectif c'est d'atteindre la ligne d'arrivée, même si tu as un objectif chronométrique en tête, c'est 3h30. Alors on t'a convoqué Julien déjà.
C'est déjà un beau objectif.
Ah bah, c'est magnifique pour un premier marathon courir à 12 km/h. Bon, Florian Carvalho court ses footings de récup à 15. Mais bon, on n'est pas tous égaux, malheureusement. Julien, où t'en es de ta prépa? Comment s'est passée la semaine alors? Ça a été
Cette semaine, ouais, je suis en plus ou moins en régénération, ou ouais, c'est un peu tranquille, parce que je cours demain,
et oui,
dimanche.
Bien sûr.
Donc c'était un peu cool cette semaine.
Parce que c'est le thème qu'on a choisi cette semaine, et ça tombe bien, évidemment, le timing est parfait. C'est le thème des compétitions préparatoires. Johan Durand, Florian Carvalho et Julien. On l'a dit, Julien est à 5 semaines de l'objectif. Johan, ouais. Il va courir un semi-marathon, donc ce week-end. Quel conseil tu lui donnes, Johan ? Là, on est assez loin de l'échéance. De quelle façon doit-il le courir ? Est-ce qu'il se pose des questions ? Est-ce qu'il se fixe une allure ? Comment tu vois ça, toi, coach ?
Alors, c'est bien, voilà, de pouvoir intégrer des compétitions dans sa préparation marathon. Ça permet un peu de casser la monotonie de l'entraînement quand on part sur des prépas assez lourdes de 12 semaines, ou là bon c'est 10 semaines, mais c'est quand même 10 semaines, c'est quand même assez long dans une préparation, et ça va lui permettre d'avoir un petit point de repère, de pouvoir juger où est-ce qu'il en est dans sa prépa. Ça peut être une belle surprise ou une mauvaise surprise. Il faudra pas tirer trop de conclusions en fonction que si ça a bien marché ou pas mal matché. Ça voudra pas dire qu'il va réussir ou pas réussir son marathon. Simplement, ça sera une photo un peu à l'instant T de sa forme. Et c'est bien d'avoir comme ça, voilà, son objectif prioritaire, ça reste Niskan. Il le sait, il l'a en tête, c'est dans sa tête, c'est son marathon, c'est l'objectif numéro 1. Mais derrière, de se dire, de se jauger sur ce semi, bah c'est vraiment bien, parce que ça va, comme je l'ai dit, ça va lui permettre de raccrocher un dossard, de retrouver un peu l'adrénaline, du stress, de la compète et tout ça. Moi, c'est ce qui m'a manqué pour Munich. Tu vois, j'ai pas couru depuis le mois de janvier en compétition. Je suis arrivé à Munich, j'avais pas raccroché de dossard parce que pour plein de raisons, hein, mais je voulais en raccrocher, mais j'avais pas pu le faire. Et du coup, t'arrives complètement dans le doute. Et là, suivant la perf qu'il va faire, suivant comment ça va se passer, suivant le plaisir qu'il va prendre, ça va être intéressant pour lui, quoi.
Ouais, ça booste ta motivation, ça booste, et ta forme. C'est une bonne répétition pour le jour J, c'est parce ça. Que comme tu l'as dit, tu accroches un dossard, tu mets en place une routine qui peut lui servir le jour de Niskan le 30 octobre. Est-ce qu'il y a quand même des risques à éviter, Johan ? Je sais pas, partir trop vite, se casser le moral, enfin comment ?
Non, il faut qu'il prenne. Il sait qu'il va être sur la fatigue, c'est-à-dire qu'il est en milieu de préparation marathon, donc. Derrière, il va falloir qu'il récupère assez bien, assez vite, pour pouvoir réenchaîner sur la fin de prépa. Mais il sait aussi que dans son bagage, voilà, il a déjà 3-4 semaines de boulot, donc il va pas arriver avec la même fraîcheur que si c'était son objectif. Donc il faut pas qu'il se prenne la tête en se disant si je fais un mauvais chrono, ouais. Ou tout ça. C'est juste raccrocher un dossard, se rebooster un peu et voir où est-ce qu'il en est, plutôt que de faire une sortie longue tout seul. Là, il fait une sortie longue en compétition, mais il va pas falloir qu'il se prenne la tête si jamais ça se passe mal, ça, et pas se dire que c'est l'objectif. Il faut pas qu'il y ait plus de stress que de raison, et il faut pas que derrière le SMI, il ait plus envie de s'entraîner pour le marathon.
Julien, t'es dans quel état d'esprit ? Celui-là, t'y vas surtout pour te rassurer en vue de Nice ?
Pour me rassurer, oui et non. Je suis pas forcément rempli de doutes et ces choses-là. C'est pas dans ma nature. Après, ça fait un an que j'ai pas mis de dossard, donc forcément c'est.
C'est bien, ouais, c'est parfait.
Et ça fait toujours plaisir, et puis voilà, je retrouve des copains aussi qui y vont, donc c'est cool. Non, c'est pas mon objectif, ça c'est clair, net et précis. Le but du jeu, c'est de s'y faire plaisir et de mettre des bornes, quoi qu'il arrive aussi. Donc,
C'est une sortie longue accompagnée et testée chronométriquement avec une vraie référence.
Ça évite de y aller tout seul comme un couillon.
Alors, il y a un conseil important qu'on doit te donner, Johan, tu vas le confirmer, j'imagine, mais ok, tu vas disputer ce semi entre guillemets d'entraînement, tu vas te faire plaisir, etc. Il faudra quand même, Johan, bien prendre le temps de récupérer à la fin de ce semi, hein. Pas repartir tout de suite billet en tête sur la nouvelle semaine.
Ouais, un semi malgré tout, il y a quelques jours derrière où il va falloir relancer la machine en ayant bien récupéré pour pouvoir enchaîner tout de suite le week-end prochain des sorties longues. Donc c'est sûr qu'il faut qu'il attende 3-4 jours avant de replacer une séance. Il faut qu'il fasse du footing simple, qu'il prenne un peu de temps pour lui pour récupérer de cet effort-là et repartir à partir de fin de semaine prochaine sur le plan initial qui était prévu.
T'as des conseils pratiques, toi, Florian, à donner à Julien, justement, pour ce semi-préparatoire ?
Ouais, c'est surtout pour rebondir là sur ce qui vient d'être dit. Après le semi, ouais, je pense qu'il faut quand même bien prendre le temps de récupérer. Et faut mieux rajouter un jour de plus de récup ou décaler une séance de un jour que absolument la faire parce qu'elle était prévue tel jour ou quoi, parce que t'as plus de chances de te blesser. Et c'est pas parce que t'auras gagné une journée ça va te changer quelque chose pour ton marathon. Juste le la chance de te blesser ou de créer de la fatigue supplémentaire pour pas grand chose. Donc oui, faut continuer la prépa, mais faut être vigilant et si vraiment la séance qui est prévue souvent à 3 jours après, si tu la sens pas, la petite séance, tu peux la faire le jeudi, ça changera pas grand chose. Et justement, ça permettra juste de la faire en étant au plus reposé et avec moins de chances de te blesser, quoi. Parce que c'est surtout à ces moments-là où on risque de se faire mal et de se blesser, quoi. On veut repartir tout feu tout flamme parce que ça s'est souvent bien passé. Ou même si ça s'est mal passé, on veut essayer de dire, ouais, bah, faut que je rattrape le temps, je suis déjà en retard, etc. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et justement, si ça s'est mal passé, c'est peut-être que déjà, ton corps était déjà un peu fatigué de tout ce que tu as fait. Donc, prends une journée de plus de récup et après, tout va bien se réaligner comme il faut, quoi.
Et voilà. Bah, Julien, on te souhaite une bonne course, un bon semi. Tu nous tiens au courant, évidemment, de la façon dont ça se passe. Et puis, bah, on te lâche pas, hein, jusqu'à.
Allez, merci à vous.
OK?
Ouais, merci.
Après, ouais, si, juste un petit dernier conseil pour Julien. Même si c'est un semi, souvent, on a tendance à se dire, ouais, c'est que la moitié du marathon, ça devrait être facile, quoi. Faut pas partir non plus dans la dilettante la plus totale, voilà, parce que derrière souvent on trouve ça super dur parce qu'on est dans la tête, on s'est pas préparé finalement à ce que ça soit aussi dur. Voilà. Un semi, ça reste dur même si c'est que la moitié du marathon. Voilà. Faut quand même tu prépare-toi quand même à avoir des moments où ça va être un peu compliqué et à la fin tu dois pas j'ai fait qu'un semi et je suis déjà mort, je vais jamais faire le marathon. Ça veut rien dire.
Exactement.
C'est vraiment un semi dans la prépa. Mais sache que tu vas pas te friser les moustaches tout le semi, c'est impossible. Mais ne tire pas la conclusion que tu arriveras jamais à faire ton marathon parce que tu as souffert sur le semi.
Voilà, pour en résumer.
Non, mais voilà.
Tu vas en baver quand même, mon vieux, hein, donc prépare-toi.
Oui, bah.
Voilà, exactement. Le résumé, on est là.
Bon, merci Julien. Allez, bonne course.
Merci
à
bientôt,
vous. Bientôt,
salut.
Dans RMC Running. Allez,
au revoir, ciao.
On passe au bon plan d'Ossard tout de suite.
RMC. Le bon plan d'Ossard.
Eh oui, ça continue, le bon plan d'Ossard. Ça a cartonné les 20 km de Paris, ces magnifiques courses dans l'ouest parisien, tous les monuments, évidemment, beaucoup de fluidité dans le parcours. Vous pouvez réaliser un bon chrono sympa. C'est le 9 octobre prochain. Comme ça a cartonné sur la première semaine, Johan Durand, nous sommes généreux. Et oui, bon souvenir de Florian Carvalho. On offre 20 dossards supplémentaires. Voilà, on en avait 20 la semaine dernière, on en a 20 autres cette semaine. Donc allez-y.
Eh ben, dis donc.
Si vous voulez candidater, vous laissez votre adresse mail sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Strava, Twitter ou Instagram. Et puis on croise les doigts pour vous. C'est vraiment une magnifique course. Flo vous l'a dit, ça peut être hyper sympa. On remercie Florian Carvalho d'avoir été avec nous. Merci Flo. Hein.
Ouais, bah pas de problème, avec grand plaisir. Merci à vous pour l'accueil. Et puis bah, je souhaite bon courage à tous ceux qui vont enfiler un dossard ces prochaines semaines.
Eh ben, c'est sympa.
Et puis j'essaierai de prendre des nouvelles de Julien auprès de Yodu.
Super. Eh ben, et tu es le bienvenu quand tu veux, hein, évidemment, pour une recette de cuisine.
Bah, pas de problème. Si on m'invite et une recette de cuisine, je laisse ça au pro.
Bon,
après,
d'accord.
Un plan de musculation, je peux peut-être dépanner un peu. Mais avec plaisir, hein, si jamais l'occasion s'y représente.
Juste
pas de problème.
Une question entre nous, si jamais j'ai une contravention, je peux t'appeler.
Non. Ah, c'est compliqué maintenant, tout est dématérialisé. Hein.
Ah ouais. Bon, voilà, tu as des potes à la police, voilà, ils te servent à rien.
Ah, sérieux, c'est fini. Quoi.
C'est fini, ça.
Les temps changent, tout à fait.
Bon, merci. C'est ça, les temps changent.
Merci, Florian, d'avoir été.
En tout cas, un grand merci à vous.
Ouais, et je remercie également Johan Durand. Merci, hein, coach Yodu. C'était passionnant une nouvelle fois.
Moi, je veux connaître la musique.
Ah bah la musique, évidemment on a demandé à Florian Carvalho, Geoffrey Charpie s'en est chargé.
Ah oui, mais
Florian,
moi
qu'est-ce que t'écoutes? Florian a dit, moi j'écoute rien, mon vieux, donc débrouille-toi,
comme
j'écoute la musique.
Il n'écoute rien, lui.
Voilà, et du coup,
là,
il
tu
a choisi...
Déjà... Attends.
Ouais, vas-y,
Florian. Attends, parce que tu m'as déjà vu courir avec des... Tu m'as déjà vu courir avec des écouteurs, Yodu?
Non.
Jamais.
Ah, voilà.
Il parle pas, Flo.
Voilà. Voilà, la question, c'était quelle musique tu écoutes en courant?
Voilà.
Je lui ai dit, j'écoute pas de musique en courant.
Voilà,
j'ai répondu sérieusement et honnêtement à la question.
Et ben voilà. Et du coup.
En courant, j'écoute pas de musique.
Tu vas assumer le choix musical de notre producteur Geoffrey Charpie, qui s'est dit, Florian Carvalho.
Allez-y. Je vous dis si j'aime bien.
Les mecs visent Paris en 2024. Il a pris un mec de ta région, de ton département. Il a choisi Slimane, Panam. Voilà, ça donne ça.
Ah, Panam, on arrive.
Et voilà, t'es
non,
là.
C'est ça,
là.
Oui,
c'est ça,
là,
c'est ça.
Ouais. Et oui, c'est ça. Ouais,
bah bon. J'aime bien.
Tu valides?
Ça, j'aime bien.
Ah, bravo. Mais
c'est validé.
Oui, je valide.
Et ben, on le dira à Geoffrey, en tout cas. Merci encore, Florian, d'avoir
été
là.
Pas de problème.
Merci, coach Audio.
Et ben, merci à vous.
Et
ciao,
on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Et d'ici là, Johan, quand vous courez,
souriez.
Ça aide à respirer. Salut à tous.
Je faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai que je l'aime.